quand on voit autant d'images, autant de choses, autant d'horreurs, moi personnellement, du coup, dans ma tête, tout est brouillé. Et il est difficile, au fond, d'apparaître comme un historien, parce que apparaître comme un historien, ça veut dire ordonner les choses, mettre de la cohérence dans le désordre. Comment faire ça? Ça, c'est ma première réaction. Deuxième chose, c'est que tous les plans que l'on a vus mériteraient chacun au moins une histoire. Sur la carte d'identité, ce que l'on est en train de dire tout à l'heure. Nous avons entendu parler de 1959, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Nous avons entendu parler de 1963, qu'est-ce que cela veut dire? De 1973, nous avons vu cette région de Nyamata, qui a d'ailleurs fait l'objet de deux livres publiés récemment par le journaliste Hatfeld. Qu'est-ce que c'est que cette région de Nyamata? Chaque plan mérite en soi une histoire. Et il serait très difficile, il serait prétentieux de prétendre que ici à 3 ou à 4, on puisse refaire cette histoire du Rwanda. Une troisième réaction, c'est qu'est-ce que c'est que cette angoisse des origines? Au fond, nous sommes angoissés pour savoir d'où viennent les Tutsis, d'où viennent les Hutus. Et à chaque fois qu'on est amené à parler du Rwanda à des non-Rwandais, nous avons toujours la même question. On croit avoir tout dit et à la fin, on nous pose toujours la même question. Mais c'est quoi un Hutu, c'est quoi un Tutsi? Et moi aussi, je ne le sais pas. Et à la fin, même si je le savais, ça répondrait à quelle question? Nous ne savons pas, Hutu, Tutsi, toi, parce qu'on n'en parle pas. Disons même, allons même plus loin, ce sont des réalités et les mêmes problèmes qu'on retrouve dans le pays voisin qui s'appelle le Burundi, dont on ne parle pas, mais qui connaît les mêmes problèmes, qui connaît la même situation. Hutu, Tutsi et toi, donc je disais, c'est des mots rwandais. C'est des mots rwandais, ça n'est pas du tout des mots inventés par un méchant colonisateur ou un missionnaire hystérique. Non, ce sont des noms bien rwandais. Mais comment ces mots fonctionnent dans la société rwandaise traditionnelle? Comment ils fonctionnent dans le Rwanda sous la période coloniale? Comment ils ont fonctionné dans le Rwanda post-colonial, c'est-à-dire moderne, le nôtre, celui que j'ai vécu? Ça, c'est plutôt ça. Ça, nous savons le dire. Mais d'où est-ce qu'ils viennent? Ça, nous ne savons pas. Nous n'avons pas d'archives sur les mouvements migratoires qui ont abouti à la constitution du Rwanda. Nous n'avons pas de traces archéologiques qui puissent nous dire, qui puissent nous permettre d'identifier les itinéraires, soit à travers la Tanzanie ou l'Ouganda au nord, en disant, voilà, les étapes successives des Rwandais dans les mouvements. Nous ne l'avons pas. Ce que nous avons, c'est que nous constatons que les groupes ainsi appelés, que ce soit au Rwanda comme au Burundi, partagent tout. La langue, la culture. Et quand je dis culture, c'est-à-dire, nous avons les mêmes chansons, nous avons les mêmes noms. Il n'est pas possible d'identifier un Hutu ou un Tutsi au Rwanda comme au Burundi par son nom. Ce n'est pas possible. Le nom que je porte est aussi porté par un Hutu ou par un Mutwa. Il n'est pas possible d'identifier un Hutu et un Tutsi au Rwanda comme au Burundi en lui demandant simplement « Vous êtes né où ?» au Rwanda ou au Burundi. Non. Ces groupes sont mélangés. Vivent les uns à côté des autres indistinctement dans l'espace qui s'appelle Rwanda ou qui s'appelle Burundi. Ce qu'on voit aussi à travers les monographies faites dans beaucoup de régions, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, il semble y avoir des spécialisations, surtout en ce qui concerne les activités économiques. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les Hutus sont largement occupés à l'agriculture. C'est vrai. Ce qu'on appelle les Tutsis sont largement active dans l'activité pastorale. Mais ceci est faux, puisque de toute manière, le Rwandais ou le Burundais qui a réussi socialement a des champs et des têtes de bétail. Voilà la grande contradiction. Il a des champs qui fait cultiver par des gens qui lui tribuent ou qui lui sont plus ou moins asservis, mais il fait on est dans une situation agro-pastorale. On n'a pas des agriculteurs d'un côté et des éleveurs de l'autre. Ce qui se passe, c'est que avec l'émergence de l'État politique, il y a eu un enjeu politique autour duquel, effectivement, il y a eu, on semble voir dans le récent livre de Vansina, où on voit très bien que le Mohamed qui est issu de lignage Tutsi choisit ses collaborateurs dans les clans Tutsi et cela fait effectivement comme une aristocratie constituée de Tutsi. Mais de là à dire que tous les Tutsis sont au pouvoir, c'est une aberration. Tous les Tutsis ne sont pas au pouvoir. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les Rwandais, comme les Burundais d'ailleurs, ne sont pas forcément, même si c'est terminé, ne se classent pas uniquement en identité Hutu et Tutsi. Il y a d'autres formes d'identification, ce sont les clans. Et dans un même clan, on trouvera aussi bien des Hutu que des Tutsi. Alors, qu'est-ce que cela voulait dire et quand est-ce que cela se met en place au Rwanda comme au Burundi? Nous ne le savons pas. Donc, ce que nous constatons, c'est qu'effectivement, il y a comme une espèce de permanence, des identités permanentes, mais avec un processus d'intégration qui est très important. Ça, c'est la période coloniale. Ce sont des vraies questions. Ce n'est pas facile de dire que tel est Hutu, que tel est Tutsi, à partir de quels critères. C'est vrai que la carte de 31 l'identification des hommes en 31 est faite sur des critères à la fois anthropologiques et anthropomorphiques et économiques. Quand on a moins de 15 vagues, de 15 têtes de bétail, on devient Hutu. Alors on peut imaginer combien de Tutsis sont devenus des Hutus et combien de Hutus sont devenus des Tutsis. Et avec le système patrilinéaire, puisque là, cette identité est définie selon le critère économique, mais après, l'identité sera définie par le père. C'est-à-dire que quand vous perdez en bourse, de toute façon, vous ne changez pas d'identité, vous restez bourgeois. Puisque si cela doit être marqué sur la carte d'identité, l'enfant du Tutsi deviendra Tutsi. Même si lui, il a perdu, on ne le fait pas à chaque fois, il n'y a pas de réajustement permanent. Bon, mais pendant la période coloniale, c'est vrai que le colonisateur s'est appuyé sur la classe politique, composée à majorité des Tutsis, mais pas uniquement. Il y a des Hutus qui sont des chefs dans les années 1926, il y a des Hutus qui sont des chefs, mais qui sont systématiquement destitués au Burundi comme au Rwanda dans le cadre d'une réorganisation administrative que le colonisateur veut voir clair, parce qu'il ne comprend pas pourquoi il y a tous ces Hutus et tous ces Tutsis. Il veut quelque chose qui soit clair. Ce n'est pas du racisme, a priori, mais il veut la clarté. Et donc, il dit, bon, mettons, c'est clair que les Tutsis gouvernent le gouvernement bien, on va leur confier la tâche de l'administrer ce pays, tous les autres sont leurs serviteurs. Il y a une espèce de clarification, de simplification du système. Et effectivement, à partir de là, les Hutus sont marginalisés dans la société rwandaise et burundaise. C'est au Tutsi qu'on va donner accès à l'école. Mais quelle école? Combien d'écoles existent? La seule école valable, c'est une école qui forme les cadres de l'administration, qui est située à Butaré et qui est dirigée par les frères de la charité. C'est le groupe scolaire d'Astrida qu'on a, qui est Boutaré actuel. Et dans cette école, on reçoit les enfants du chef. Encore une fois, ce n'est pas les enfants de tous les Tutsis. On est donc dans une situation politique effectivement inégalitaire et qui méritait bien une révolution sur le plan politique. Mais une révolution qui a été dénaturée, qui est devenue une révolution raciale. C'est-à-dire que le combat contre l'inégalité politique est devenu un combat contre l'inégalité des races. Et tous les Tutsis se sont trouvés impliqués dans l'assévissement des Hutus. Et tous les Hutus sont devenus des victimes. Alors que les Tutsis qui étaient victimes du système, ou à la fois du système interne et du système colonial, ne deviennent pas des victimes. Ils deviennent des coupables de l'assainissement. C'est donc en réalité ce qui peut être, si on peut parler des origines du génocide, au fond c'est là, c'est entre 59 et 63. Ce qui se passe à cette époque-là, dans cette révolution qui tend à remplacer au fond une action politique, un raisonnement essentiellement politique qui est remplacé par un raisonnement qui devient totalement racial, et pour une raison simple, c'est la raison, à mon avis, c'est que, d'une part, effectivement, les Hutus, dans leur ensemble, dans la communauté Hutu, dans son ensemble, est marginalisée. Donc, il est normal qu'elle parle pour elle. Simplement, l'administration coloniale belge n'a pas la capacité de gérer la question. Au fond, qui gère le problème à cette époque-là, c'est l'Église catholique. Et l'Église catholique se trouve confrontée à un problème. On est en 58 et en Europe, c'est la guerre froide. Aux Nations Unies, ce qui appelle à la décolonisation, c'est Moscou. Donc, le raisonnement est vite fait que les partis nationalistes, ceux qui réclament l'indépendance, les Africains nationalistes, sont des alliés de Moscou. Et donc, pour l'Église catholique, c'est très dangereux. Il faut faire attention, il faut maintenir les anciennes colonies dans le giron de l'Occident et de l'Église catholique. Je m'excuse auprès du père Gabé, qui m'a de toute façon réconcilié avec l'Église. C'est vrai. Je ne suis pas en conflit avec l'Église, mais au fond, c'est sympathique ce que vous avez fait et ce que vous avez dit. Et donc, c'est cela, c'est cette erreur idéologique qui consiste à dire que le parti nationaliste, qui est constitué essentiellement au Rwanda de chefs Tutsi, est un parti communiste. Et que donc il faut le casser comme tel. Et c'est beaucoup plus simple de poser aux Tutsi que de poser les classes. Et dans une lettre qu'il écrit en février 59, où il dit « Le problème n'est pas social, il est racial. » Parce que s'il pose le problème en termes social, il a l'impression de faire un raisonnement marxiste. Et les Hutus qui sont, la majorité des leaders Hutus de l'époque, sont des anciens du grand séminaire. Et donc, ça fait, c'est cette interprétation idéologique qui fait qu'on pose en termes racial un problème social. Et on n'en est jamais sorti. Puisque à chaque pas, plutôt, il y a eu l'engrenage. Lorsqu'en 63, les anciens réfugiés reviennent vers revenir au Rwanda armé, et que les responsables de la Première République réagissent en massacrant massivement les Tutsis dans les régions de Gikongoro et dans les régions de Nyamata que nous venons de voir, et l'Église catholique est très embarrassée et donc défend largement le pouvoir. Et donc il n'y a pas de remise en cause de l'idéologie. Et elle s'approfondit à chaque fois. Donc l'engrenage est tel qu'on ne s'en sortira jamais. On maintiendra les ethnies sur le cadre d'identité. Et pour bien séparer les choses, pour que cela soit maintenu, on mettra en place cette politique des quotas ethniques, des équilibres ethniques. Une manière de surveiller le Tutsi, car il est considéré comme étant dangereux pour la République, dangereux pour les Hutus. Et la propagande qui se fait entre 90 et 94 au Rwanda dans la presse écrite, elle n'est pas, il n'y a rien de nouveau. Au fond, c'est le discours de 59 et de 60 qui est simplement repris. Bon, voilà, donc c'est difficile de refaire un tout petit peu cette longue histoire. C'est comme si on voulait refaire les œufs alors qu'on les a cassés, qu'on a plutôt l'omelette sur le feu. Peut-être plus facile de répondre à des questions précises.
Sur la question de la guerre froide, est-ce que l'Église qui soupçonnait les Russes d'avoir des vues sur Rwanda, hein, dans ce conflit-là, est-ce qu'il était légitime? Est-ce que les Russes, en effet, appelaient à la décolonisation pour prendre la place, quoi?
Il y a des...
Parce que finalement, c'est ce qui se retrouve, juste pour finir, en 94, quand la France dit « Mais nous, finalement, on a soutenu tel parti parce que les Américains... » On est de nouveau dans des conflits géostratégiques, là, géopolitiques, où les arguments sont un peu les mêmes, finalement. Enfin, la vision géopolitique est un peu la même. Ben, nous, si on y va, c'est pour pas que les autres y aillent, quoi. Et est-ce que c'est un fantasme ou est-ce que c'est une réalité?
Je pense qu'il y a une réalité, mais après fantasmée. La réalité, c'est qu'effectivement, les nationalistes comme Nasser, comme Kouma, comme Sékou Touré, sont effectivement soutenus par Moscou. C'est une réalité. Et les chefs politiques rwandais sont en rapport avec Lumumba au Congo. Ça, c'est la réalité. Mais le fantasme, c'est de penser que Moscou avait des vues sur le Rwanda. Ça, je ne le crois pas. Il y a une réalité, mais qui devient fantasmatique. Et ce que je ne crois pas non plus, c'est que ces chefs rwandais, tels qu'ils sont décrits, je ne les vois pas comme des marxistes. Ils n'ont rien de marxiste. C'est plutôt des égoïstes convaincus. Donc, je ne les vois pas devenir marxistes.
Oui, parce qu'au-delà de la question de la guerre froide, où effectivement le discours global, il était quand même anti-colonisation, que ce soit du côté soviétique ou du côté américain, et à l'ONU, hein, c'était le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc c'était après une question d'affrontement géopolitique. J'accepte que tel ou tel pays soit indépendant, mais il faut qu'il soit de mon côté. C'est la question du non-alignement. Hein. Donc la question que je voulais poser, c'était par rapport à un autre leitmotiv qui revient tout au long des années, c'est la question du retour à la féodalité. On fait la révolution contre les féodaux tutsis, qui ont été présentés justement comme des féodaux. Donc, cette idée de féodalité, je voulais vous demander si c'était quelque chose, un concept qui, d'après vous, s'applique correctement à l'histoire du Rwanda avant la colonisation, pendant la colonisation, parce qu'apparemment, c'est aussi quelque chose qui a été plaqué de manière artificielle. Et après, j'avais cru comprendre, notamment en lisant Dominique Franche, que pour lui, il y avait eu une manière de fantasmer la révolution rwandaise du côté des Européens, un peu comme une révolution française. Lui, il pousse encore plus loin, en disant du côté des pères blancs belges. Il y avait eu cette histoire entre Wallon flamand, enfin bref, ce qu'on disait tout à l'heure, il fallait que quelque chose soit simple, les deux camps. Donc, est-ce que la féodalité qui revient dans les discours, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est correct de plaquer ça sur l'histoire du Rwanda?
Oui, je pense. C'est d'ailleurs plaqué aussi bien sur le Burundi que sur le Rwanda. Mais si ce que vous savez de l'époque médiévale européenne, par exemple, vous n'allez quand même pas retrouver ça au Rwanda comme au Burundi, qui sont des États hyper centralisés, où le roi, c'est le roi. Il y a une centralisation du pouvoir telle qu'il est difficile. Il est aberrant de parler de féodalité.
Non, puis même dans la constitution même des royaumes rwandais, justement avant 1900, c'est ce que j'ai lu dans le livre de Sébastoni, justement dans les origines du Rwanda. Ce qu'on comprend, c'est que avant que les colonisateurs allemands arrivent en 1900, entre 1800 et 1900, pendant un siècle, il y a eu des différents petits royaumes au Rwanda ou au Burundi, et puis il y a eu des lignages, il y a eu des alliances, il y a eu des petits conflits pour les territoires, mais globalement en 1900, le pays était complètement unifié.
C'est un État hyper centralisé, ce sont des États hyper centralisés, avec le roi qui est le chef de tout, c'est lui qui nomme le chef, c'est lui qui il a des armées, c'est ces chefs-là, d'ailleurs, en ce qui concerne au moins le Rwanda, par chefferie, il y a trois chefs. Pour mieux les contrôler, il est nommé à trois. Il y en a un qui s'occupe du bétail, un autre qui s'occupe des pâturages, et un troisième qui s'occupe des hommes. Ils sont là, tous les trois, à se surveiller mutuellement et à rendre des comptes. Et quand il faut lever des impôts, eh bien, chacun lève l'impôt dans son domaine propre. On n'est pas là dans un système féodal.
Mais c'est juste pour finir, c'est une féodalité, donc pour continuer, donc c'est plus une féodalité fantasmée, comme on peut là par contre effectivement la voir à la Révolution française, où les révolutionnaires parlaient de féodalité alors qu'ils associaient ça au Moyen-Âge, alors qu'en fait on était dans tout à fait autre chose, mais ils avaient le sentiment quelque part que depuis le Moyen-Âge, ils étaient affrontés à la féodalité.
C'est vrai que pendant, enfin, bien avant la révolution rwandaise, la révolution sociale, il a été question, on a voulu voir au Rwanda comme au Burundi précolonial une société féodale. Mais après la révolution, par contre, le thème de la féodalité a été réutilisé et réinvesti largement parce qu'il fallait légitimer la révolution rwandaise par la révolution française. Et ce thème revient au point qu'en 1964, il y a le président de l'Assemblée nationale du Rwanda, après les massacres de Gikongoro, qui sont largement dénoncés et qualifiés par Bertrand Russell à l'époque de génocide, le président de l'Assemblée nationale rwandaise, Makuza Anastase, vient à Paris et parle au Parlement français et leur explique que ce qu'ils ont fait, c'est exactement ce qu'avait fait la Révolution française. Qui ne répond pas à une société féodale, la Révolution française. Parce qu'elle se fait, je pense que la féodalité est largement dépassée. Mais à ce moment-là, il faut légitimer la Révolution rwandaise par la Révolution française, qui elle-même alors est présentée de façon totalement à l'envers. Mais on prend au moins les signes forts, les symboles forts, pour faire correspondre les deux. Je pense que pourquoi cette propagande entre le peuple majoritaire qui se révolte contre les seigneurs est si bien accueillie en Europe, sinon qu'elle répond justement à cette mémoire européenne à laquelle on veut calquer, parce qu'on explique aux Européens le Rwanda de la manière qu'ils peuvent le comprendre. Voilà les petits qui se révoltent contre des grands, contre des seigneurs. Et bien sûr que du coup, on comprend. Mais quand on va dans la société rwandaise, on s'aperçoit que non, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Et justement, aussi, à travers ne serait-ce que la langue, le guignard-rwanda, justement, que c'est extrêmement complexe, justement, et ces trucs-là. Hein. Parce que le guignard-rwanda, c'est une langue très imagée, et que justement, c'est ça que le colonisateur a rien compris, justement, dans la conception de la société rwandaise, que tout était intrinsèquement lié. Il y avait des chefs un peu partout, etc., mais ils ne savaient absolument pas comment ça se passait, quoi.
Non, ils ne savaient pas, et de toute façon, ils ne voulaient pas savoir. Ce qu'ils voulaient, c'est que ça se passe bien.
Moi, j'ai peut-être une question un peu bête, mais pourquoi, si j'ai quelqu'un en face de moi qui me pose la question, je ne sais pas répondre, pourquoi la France et les Nations Unies ont laissé faire le massacre ? Quel est l'intérêt financier, économique ? Et je ne peux pas répondre, parce que je ne sais pas. Il y a toujours un intérêt quand la France laisse faire un massacre ou laisse faire quelque chose. Il y a un intérêt économique, un intérêt pour piller quelque chose, pour soutenir une dictature, pour etc. Et là, je ne sais pas.
Quand on laisse faire, au fond, moi je pense que si la France avait seulement laissé faire, il y aurait peut-être eu moins de dégâts. C'est qu'elle a permis de faire.
Oui.
Et c'est ça le problème. C'est pourquoi est-ce qu'elle a aidé Pourquoi est-ce qu'elle a aidé un régime dont elle connaissait les intentions? C'est ça le problème. Quant à laisser faire, je peux comprendre qu'on laisse faire parce qu'on n'a pas envie de s'engager, parce que s'engager coûte cher, parce que s'engager c'est dangereux. On a vu ce qu'avait donné lieu l'opération Restore Europe en Somalie. Les Américains n'avaient pas envie de se faire tuer au Rwanda pour les besoins du Rwanda. C'est sans intérêt ni économique, ni financier, ni politique. Le problème c'est quand on aide, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de la France au Rwanda? Je pense qu'il doit y avoir des intérêts géostratégiques qui me sont difficilement connus, que selon lesquels, au fond, est-ce que le Rwanda ne représentait pas cette frontière un peu orientale de la francophonie? Je n'en sais rien.
Dans le DCFR, il y a une des choses qui me frappe, alors qui n'est pas dans les objectifs de survie, mais qui m'a frappée en relisant les bouquins, c'est aussi le DCFR au niveau de l'OUA. Quand l'OUA se réunit en plein au milieu du génocide et qu'on reçoit comme vous était rappelé tout à l'heure, le représentant du GIR, ça fait partie du laisser-faire qui est soutenir le pouvoir en place, quel que soit le pouvoir, mais dans les sociétés qui soutiennent parce que c'est des gens de pouvoir, donc on ne s'interroge pas, on essaye de... Je ne sais pas si c'est pour préserver un équilibre ou parce que les types étant eux-mêmes en place, ils préfèrent qu'on les laisse faire ce qui se passe aussi chez eux, donc on ne touche pas aux autres, qu'on ne touche pas chez soi. Enfin, je ne sais pas, moi, c'est la phrase tout à l'heure m'a frappée parce qu'elle a fait écho à d'autres choses que j'ai vues dans les articles, même si ce n'est pas notre sujet chez Survie, quoi.
Et puis en plus, à l'OUA, il y avait aussi ce qui s'était passé justement au plein milieu du génocide, c'était les pressions qu'il y a eu des États africains francophones, justement. À travers la France, justement, pour pas que le mot génocide soit employé et pour pas que l'OUA intervienne. Et c'est sous pression, en fait, des gouvernements africains francophones qu'il n'y a eu aucune décision de prise, justement, que ça a capoté. Roméo Dallaire en parle très très bien dans son bouquin, justement, oui. Là-dessus.
On sait très bien que cette réunion de Tunis, qui se réunit au mois de mai 1994, la plupart des États, des chefs d'État africains, ils sont passés par Paris, dont Omar Bongo. Il est passé par Paris avant d'aller à Tunis. Et à Tunis, effectivement, l'OUA se trouve devant deux délégations rwandaises. Une délégation du GIR, donc du gouvernement intérimaire, avec une délégation de la rébellion du Front patriotique rwandais. La tradition de l'OUA, c'est de reconnaître les États tels qu'ils sont, etc. Donc, pour l'OUA, c'était ou le clash, peut-être que ça aurait fait un clash, d'accepter les rebelles. Pour les États africains, c'est une question très sensible. Ou alors, le mieux aurait été de n'accueillir personne. Mais je pense qu'ils se sont trouvés très embarrassés, à la fois par leur propre tradition, la tradition de l'OUA, et aussi par, probablement, des pressions, savoir que la France soutenait bien ce gouvernement.
Et puis les risques chez eux.
Les risques chez eux, c'est la tradition.
Il y a quand même des chefs d'État africains, quand ils partent de chez eux, accueillir des rebelles quand ils sont dans une réunion de l'UA, et quand, c'est aussi se demander s'ils peuvent rentrer sans que les rebelles chez eux aient pris le pouvoir et changer les choses.
Ah oui, cette tradition visait à se protéger soi-même. C'est-à-dire on se protège soi-même en protégeant le voisin. On sait bien ce qu'avait donné la conséquence de la question du Sahara occidental dans l'UA. Ça avait divisé l'UA, donc pour se protéger, le chef d'État. L'UA n'est même pas une organisation des États africains, c'est une organisation des chefs d'État d'abord.
Les autres bébés qui ont été assassinés au début, est-ce qu'on a un peu recensé qui ils sont? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'ils sont dans tous les milieux? Et combien ils sont à peu près? Est-ce qu'on le sait? Ceux qui ont été assassinés parce qu'ils étaient contre ce génocide, comme la Premier ministre.
Oui, je vais réagir d'abord au terme de Hutu modéré, parce que je répondrai à votre question. Ben, le Hutu modéré, c'est pas un Hutu idiot. Je comprends, mais parce que je sais que c'est un terme qui est souvent utilisé. Ça ne veut pas dire que c'est un Hutu normal n'est pas un Hutu avec la machette à la main. D'accord. Donc, c'est celui qui dit non au génocide n'est pas un Hutu. Oui, mais mais c'est important quand même de dire ça parce que c'est dit partout. Non, c'est pas à vous que je réponds. Je profite de l'occasion pour le dire. C'est des gens normaux. Alors, mais ce que je peux effectivement savoir, c'est que des Hutus ont été tués dans cette affaire. Et que la propagande en vue du génocide, c'est là que ça devient du fascisme et pas. C'est là qu'on voit très bien que c'est pas un racisme, c'est pas les Hutus qui tuent les Tutsis, c'est un groupe. C'est un groupe qui décide de tuer ce qu'il considère comme devant être tué et tout ce qui peut s'y opposer. Et parmi ceux qui peuvent s'y opposer, il y a effectivement des Hutus. Et est-ce qu'ils ont été recensés? D'abord, le recensement de toutes les victimes n'est pas. Il y a eu des tentatives de recensement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à la première commémoration du génocide, c'est-à-dire en avril 1995, parmi les victimes que l'on va essayer de déterrer et d'enterrer plus ou moins dignement, il y a évidemment Déoutou, le premier ministre, et l'ancien chef de la Cour de cassation Rwanda. Oui, bien sûr que ces gens qui ont été tués les premiers, ce sont ces gens qui ont été au moins réenterrés dignement. Dans le recensement qui est fait par le gouvernement en 2000, je pense, le recensement des victimes n'a pas fait de distinction entre victimes Hutu et victimes Tutsi. Tout le monde a été recensé. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Pas tout à fait, parce que je trouve que je repense à la Shoah où on a mis si longtemps à reconnaître qu'il y a eu des justes. Et je trouve que dans ce problème du génocide, où on sait que cette force de cette bête féroce qu'on peut avoir en nous et qu'on peut tous aller vers des choses pareilles pour sauver sa peau, mettre un peu en exergue les gens qui résistent et qui sont capables d'aller jusqu'au bout de refuser, je trouve qu'il faut le plus possible en parler pour qu'on puisse s'identifier à ceux qui résistent plutôt que de se dire on peut être écrasé, je ne sais pas si je me fais bien écrasé par cette violence qu'on a en nous. Parce que vous dites, c'est des gens normaux, donc nous aussi on est des gens normaux. Et on peut être pris dans une telle.
Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui est commencé depuis 2 ans, qui s'est appelé, les justes. Est-ce qu'on les a appelés les justes? Je ne sais plus. Mais il y a eu déjà un travail qui a commencé à se faire. Le problème, c'est que. Est-ce qu'on les appelle des justes ou des héros? Parce que, en fait, dans le premier recensement que j'ai vu, au moins, il y a dans la liste, il y a même des héros de l'indépendance. Alors, je ne sais pas très bien où ça va aller, mais je sais que le travail a commencé. De recenser tous ces gens qui se sont opposés au génocide. Et en 96, je pense, il y a eu un bourgmestre de la communauté qui a reçu une médaille. Justement en reconnaissance de son engagement pour empêcher que dans sa propre commune. Pour empêcher. Parce qu'il n'a pas répercuté la propagande et il a fait en sorte que tout le monde dans la commune qu'il n'y ait pas de tués.
Si vous permettez, dans la question de Martin sur l'implication de la France. Au soutien des génocidaires. Il y a Michel Sibon, c'est un livre que j'ai lu, qui apporte 2 pistes, il est peut-être même creusé, qui est la première, il illustre un peu par le syndrome de Fashoda. Alors je n'ai pas eu le temps de m'intéresser à ce syndrome, mais juridique, c'était qu'il ne fallait pas laisser aux anglophones, donc nous aussi, qui sont allés en Ouganda, et qui sont devenus anglophones, en fait, le Rwanda. Donc il y avait ça. Puis sa deuxième piste, c'est que, quelque part, on allait donner un signal de faiblesse par rapport au soutien à la France-Afrique en abandonnant des représentants Hutu à ce niveau-là. C'était 2 pistes qui étaient dans le livre de Michel Sibon. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez.
Syndrome de Fashoda, c'est peut-être ce que nous avons déjà évoqué, mais quelque chose dont on n'a pas clairement peut-être conscience, comment la France a pu penser que dans cette région du monde, que c'est là que se trouvait le conflit entre les anglo-saxons et les francophones. J'arrive pas à le comprendre. Et puis, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que parmi les personnes tuées, il y a beaucoup de francophones. Donc, s'il s'agissait de défendre la langue française, alors ce fut une hécatombe. Tous qui ont été tués, c'était des francophones. Ils n'étaient pas en Ouganda, ils étaient au Rwanda. Ils ont été formés dans les écoles francophones, et même à Paris. Donc, on ne peut pas nous dire qu'on est en train de défendre la francophonie. Par contre, il est tout à fait possible. Puis, il faut savoir que ceux qui étaient dans, la rébellion du FPR ne venaient pas tous d'Ouganda. Il y en a qui venaient du Congo, du Burundi, et qui étaient donc des francophones. On n'est donc pas véritablement dans l'espace, à la frontière du conflit anglophonie-francophonie. Par contre, si la France a pensé que c'était sa manière de prouver aux États auxquels elle était liée par des accords de coopération, de défense et autres, cela est bien possible que ce soit dit. Si on laisse tomber le Rwanda, eh bien ça va donner au Gabon, à la Côte d'Ivoire, malheureusement ce fut le cas. Et peut-être que la France s'est sentie en obligation de défendre un membre de son précaré pour prouver aux autres qu'il était crédible. Cela est bien possible.
Je crois quand même que ce qu'on peut remarquer par rapport à cette affaire, c'est que avant le génocide, le Rwanda en France est complètement ignoré. Personne ne sait que le Rwanda existe. Donc ce n'est pas un problème politique pour la France. C'est-à-dire qu'un seul individu comme Mitterrand peut décider qu'il va orienter la politique dans un sens ou dans un autre. Enfin, je dis un seul, il y a peut-être deux ou trois personnes conseillées autour de lui, y compris des gens sur place, qui peuvent décider d'orienter la politique dans un sens ou dans un autre, ça n'aura aucun impact sur l'opinion publique française, puisqu'elle ne le saura même pas. Et de ce point de vue-là, dire uniquement c'est l'État français qui est responsable est un petit peu limité, puisqu'il y a aussi les médias qui font le block-out, etc. Donc c'est ça qui est important à savoir, c'est qu'à partir du moment où l'opinion publique ne s'intéresse pas au problème, effectivement, un individu peut décider une chose très importante, et d'aller dans un sens ou dans un autre sans que ça provoque aucune vague. Et je crois que ça a été très joué. Ça a été joué. Et quand Michel Sibon, si vous regardez sur le réseau Voltaire, il y a des articles de Michel Sibon où il essaye de répondre exactement à cette question. Il explique que le frère de Mitterrand avait des intérêts là, que peut-être Pascoe avait des intérêts, etc. Qu'il y avait deux, trois personnes qui avaient des intérêts là, et que ça suffisait pour orienter la politique dans un sens.
Oui, puis comme tu le disais avant, moi je me souviens d'un reportage en 92 ou 93 sur le Rwanda qui était passé sur France 3. Mais le Rwanda était, c'est ça qui est terrible, il était plus connu pour ses gorilles, ouais. Son parc des gorilles, que pour sa population.
Ce n'était connu que pour les gorilles.
Oui, non, mais si tu veux, on a montré un petit peu l'artisanat.
Non, mais Rwanda, que pour les gorilles. Moi je suis allée au Rwanda en 1989. Les gens pour qui je travaille ont l'habitude que je fasse des voyages un petit peu, mais ils m'ont carrément demandé où était le pays, enfin, grosso modo si ce pays existait. Quand je vais dans d'autres pays d'Afrique, on ne pose pas ce genre de questions. Le Rwanda, je passais d'abord au Kenya, ça c'était connu, d'abord là il y a vraiment plein d'animaux, mais le Rwanda c'était, mais où est-ce que c'est sur la carte? C'en était quand même à ce point-là. Ouais. Est-ce que c'est francophone? Les gens connaissaient absolument rien à part Gorille dans la brume.
C'est normal, disons, c'est pas une ancienne colonie française. C'est donc le Rwanda n'était pas connu en France, et c'est peut-être cela qui a permis à ceux qui avaient des intérêts personnels de mener une politique finalement de manière tranquille. Je pense que si cela s'était passé au Sénégal, il y aurait eu une opinion. Les gens auraient posé des questions. Mais en France, qui pouvait poser des questions? Je me rappelle quand on parlait du Rwanda à l'époque, où les gens nous disaient, mais enfin, c'est où le Rwanda? Au fond, c'était difficile de mobiliser une opinion sur un pays mal connu. Mais en même temps, c'était plus facile pour ceux qui voulaient faire une politique, de le faire, effectivement, sans être embêté ni par les parlementaires qui ne savent pas qui. Donc, j'ai entendu une fois Michel Rocard, qui fut Premier ministre à cette époque, dire qu'il ne savait pas. Je pense qu'il ne l'aurait pas dit si c'était s'agi de la Côte d'Ivoire. Il ne l'aurait certainement pas dit. Mais s'agissant du Rwanda, probablement qu'il n'a pas su. C'est vrai que ça a permis de faire des choses, et même des choses incroyables. Mais les gorilles, c'est ce que dit Dallaire. Il a dit, si aujourd'hui on décidait d'éliminer, si le Rwanda décidait d'éliminer 50 gorilles, eh bien il y aurait tout le monde réagirait. Mais éliminer 1 million de personnes, ça ne mobilisait personne, parce que ces gens ne sont pas connus, les pays sont connus.
Et dans son livre, il dit même qu'à la veille du génocide, l'envoyé spécial de l'ONU, avec un envoyé politique, hein, donc, s'absente les week-ends, alors il a 16 heures de bureau, il s'absente les week-ends, notamment pour emmener ses visiteurs voir les gorilles. C'est-à-dire qu'à la veille d'un génocide, ça reste encore un des aspects gratifiants de son voyage, en tant que représentant de l'ONU, c'est d'aller voir le parc national.
Non seulement à la veille d'un génocide, mais enfin, moi, dans mon souvenir de ce voyage de 89, le Rwanda était en plus économiquement dans des difficultés. Enfin, les familles avaient un mal fou à nourrir leurs enfants. Et ce parc naturel sur la montagne, c'était aussi un endroit où on ne pouvait pas... Enfin, les gens des collines avoisinantes essayaient de pousser un petit peu le parc pour avoir un petit peu plus de parcelles à cultiver. Moi, j'ai des souvenirs, les bas-côtés des routes étaient cultivés à certains endroits. Dans les fossés, il y avait des cultures à certains endroits parce qu'on manquait de terre. Et j'avais discuté avec un représentant d'une association de jeunesse qui était très écologique dans son raisonnement et qui me disait « c'est difficile d'être écologiste quand quelqu'un me dit « j'ai besoin de place pour planter, pour nourrir ma famille » et de lui dire « ouais, il faut protéger la forêt pour que les gorilles puissent vivre ». Il y avait aussi cette réalité-là au Rwanda. Enfin, il y avait, facile de parler au passé, je pense qu'aujourd'hui ça prend encore d'autres proportions, mais ça faisait partie d'un duel.
C'est quelque chose d'important, ce que vous évoquez là, parce qu'effectivement, quand on... c'est peut-être pas évident, une des particularités de ce génocide, c'est que s'il a été décidé par une poignée de personnes, au fond, beaucoup de personnes ont répondu à l'appel. Pour quelles raisons? Peut-être c'est pour des raisons que vous évoquez. L'idée qu'on peut tuer le voisin et prendre ses terres est quelque chose de mobilisé. Ça va mobiliser les foules. Le pillage, la possibilité de piller, tous ces jeunes que l'on a vus qui se retrouvent tout à coup revalorisés, malheureusement dans une entreprise criminelle, mais ils sont revalorisés, ils ne peuvent pas l'être autrement. Donc ils répondent d'autant plus facilement au mot d'ordre qu'au fond il y a aussi un peu de... ils vivent aussi un véritable désespoir. Cette terre qui devenait de plus en plus petite, l'emploi qui... ce marché de l'emploi de plus en plus rétréci, les difficultés de l'existence, en fait, ont donné aux architectes du génocide la possibilité de mobiliser beaucoup plus de monde autour d'eux.
Non, mais juste, apparemment, les preuves existent que les génocideurs, si on peut dire ça comme ça, auraient accéléré la redistribution des biens pillés de manière à faire passer le message que oui, effectivement, si vous travaillez, puisque c'était le terme employé, si vous travaillez à l'extermination, vous serez récompensé de manière quasi immédiate.
Dans le livre de Ratzfeld, vous voyez bien qu'en fait, la distribution se fait le soir. C'est-à-dire, bon, on tue le matin, on pille autour. Donc, si on n'a pas été tué, on ne prendra pas part à la distribution. C'est clair qu'il y a un salaire journalier. Et on a l'impression qu'ils sont revenus, au fond, à des temps anciens, de la chasse et de la cueillette.
Ils disent que
quelque chose de quotidien, c'est permanent.
C'est ce qu'ils disent, ils disent que le génocide a été une période de luxe pour les gens qui tuaient, parce que ils disent qu'ils n'avaient jamais mangé autant de viande que pendant cette période-là, parce que pour donner de la force aux travailleurs, c'est ce qu'ils emploient comme terme dans le livre. Tous les matins, les femmes préparaient de la viande, et donc ils étaient réveillés à 5-6 heures du matin, et leur journée commençait en allant manger de la viande tous ensemble, en buvant de la bière, et qu'en fait, pour ceux qui tuaient, c'était une période riche et luxueuse qu'ils n'avaient jamais connue avant. Quoi.
On vous a parlé d'autres périodes où, effectivement, quand il y avait eu des massacres dans le passé, il y avait eu des gens récompensés, alors ça j'avoue que j'ai oublié quand, il y avait eu des gens récompensés parce qu'ils avaient tué, et que du coup, quand les fils avaient vu leur père récompensé, et donc la notion de tuer et se cacher, c'était un témoignage que j'avais entendu, une fille qui disait qu'elle avait été blessée quand son père avait été tué. Elle avait été blessée, mais que sa mère ne l'avait pas emmenée à l'hôpital se faire soigner parce qu'il fallait taire la blessure. Il fallait qu'elle retourne même jouer ensuite avec les enfants de la personne qui l'avait blessée et qui avait tué son père. Et que, alors ça, il y avait dans cette famille, dans la famille blessée, le fait qu'il ne fallait pas dire, qu'il fallait garder, que c'était honteux de dire qu'on avait été blessé parce qu'on était toute fille, parce que ça pouvait revenir aussi. Mais je me suis demandé dans la famille d'en face, dans la famille du tueur, du blesseur, comment les enfants pouvaient grandir en disant, finalement, non seulement tuer et blesser, ce n'est pas puni. Ce n'est pas si mal, mais même
c'est
ça
peut rapporter. C'est gratifiant. Cette même période, la période que vous avez évoquée, c'est la période qui va quasiment de 60 à 64. C'est très trouble ce qui se passe à cette époque-là. Et c'est vrai que il a été décidé, il y a un décret, je ne sais pas si c'est un décret de 63, qui dit qu'au fond, tous ceux qui ont tué ou pillé dans le processus révolutionnaire ne sont pas poursuivis. C'est écrit, moi, sur le blanc. Et donc, ils sont libérés. Personne ne peut être puni. Et effectivement, les militants du Parlement à l'époque organisent des pogroms sur les collines. C'est à ce moment-là que beaucoup de Tutsis de plusieurs régions du pays, notamment dans le nord, comme Rwenyeri-Gisenyi, Zumba, sont raflés et renvoyés brutalement dans cette région du Bugesera. La région de Bugesera était peuplée en 1994 par des gens qui sont venus d'être dans le Dwarstrap, donc voilà, bien que les gens viennent d'ailleurs, qui viennent de différentes régions du pays et à l'époque avec la complicité de l'administration coloniale belge. C'est avec des camions de l'armée belge que ces gens sont transportés, toutes les familles là-bas. Alors il y en a qui sont tués et il y en a qui sont simplement transportés. Et comme c'est fait par les chefs du Parlement Hutu, les chefs locaux du Parlement Hutu, qui après, effectivement, deviennent des conseillers, des bourgmestres, des préfets, des députés. C'est cela, la révolution. Et effectivement, c'est gratifiant, cette activité, et ça n'est pas puni. Par contre, effectivement, dans les familles des victimes, cette affaire ne transpire pas. C'est ainsi que, au fond, la plupart de ceux qui sont tués en 1994 sont des orphelins qui ont été élevés par leur maman, mais dans l'ignorance du sort qui a été réservé à leur père. Beaucoup d'hommes qui ont été arrêtés à l'occasion d'une des invasions de ce qu'on appelait les Inyenzi à l'époque, en 1963. Des rafles sont organisées en préparant dans le pays, les gens sont arrêtés et ne sont jamais revenus dans les familles, mais les familles ne devaient pas en parler, il ne fallait pas en parler, parce qu'en parler revenait à se faire complice des envahisseurs. Donc ils n'en parlent pas. Et donc les enfants ont été élevés dans l'ignorance, on n'en parle pas. Est-ce que les enfants des bourreaux le savaient? Pas forcément. Pas forcément, parce que je pense que si les gens sont raflés, fusillés quelque part dans la forêt, les enfants ne savent pas forcément. Bon, mais ils ont dû l'apprendre. Ils ont dû l'apprendre. Mais en tout cas, les adultes le savaient, oui. Et les enfants des victimes ne l'ont su que très tardivement. Et parfois, ils ne l'ont su que parce qu'une grande sœur a simplement révélé le secret. Mais la maman n'a jamais rien dit.